Le jour où on m'a dit, va falloir faire tout seul.
Bonsoir, bonsoir.
C'est Romain et Sébastien ce soir pour Imaginaire sur le 101.5. Tu vas nous parler de quoi ?
Alors, je vais vous parler de Défis et Sortilèges, du Sanctuaire de Orla précisément, qui est le second livre-jeu du cycle des héritiers de Dorgan. Et je vous avais présenté d'ailleurs le premier, Souviens-toi Romain, ainsi que nos auditeurs, donc du 101.5, en 2023.
Donc c'est une réédition de livre dont vous êtes le héros français.
Voilà, d'une série qui était sortie dans les années 90 chez Gallimard, initialement.
Super. Jean-Hugues nous a enregistré une chronique à propos de tous les films, les séries télé et les romans qui s'est mangé ces dernières semaines.
Un best-of.
Et puis, il y a quelques semaines, nous étions imaginaires à la journée de, comment dire, porte ouverte de l'ESPL, École supérieure des Pays de la Loire, qui se trouve sur le campus de Belbeil. Ils avaient fait appel à nous pour modérer une table ronde sur les métiers de l'édition, avec Samuel Delage, auteur de thriller du Saumurois, qu'on avait déjà reçu, nous, à notre salon. Il y avait aussi Julien Caldironi, qui pouvait parler notamment de son expérience avec les éditions Trash. Et puis Manon Tardy, consultante pour Imaginaire, aussi éditrice à son compte, que vous connaissez bien maintenant. Et on a interviewé à cette occasion donc la directrice et le directeur pédagogique de cette école, parce qu'en fait, à la rentrée, et c'était aussi l'occasion de cette table ronde, eh ben, ils vont proposer une filière d'études sur l'édition. Donc on va s'écouter ça en deuxième partie d'émission. On commence avec un blind test. Sébastien, je laisse ton micro allumé, t'as le droit de nous dire qui c'est.
C'était le début de l'été. Les bons limiers étaient au soleil et les dealers à l'ombre. Il n'y avait plus qu'à fumer le saumon pour faire légal. Ce jour-là, j'avais descendu 227 marches, trois maris en fuite.
T'as pas l'air de connaître.
Et 17 Jack Daniels. On ne devrait jamais faire de mélange.
Bon, c'est un rapport avec un événement geek qui va arriver dans deux mois.
De muguet propane. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, coupé ?
C'est le patron d'Azir qui m'a donné votre numéro. J'aurais besoin de vous pour me faire un petit boulot.
Bon, si vous avez trouvé, vous pouvez nous en parler sur le chat.
De nuit qui finit. Dans un petit mouchoir, on m'a volé un truc. J'ai dû avoir vos quelque part. Voilà, je me suis perdue. Trop de câlins chez les poumées. Aidez-moi si vous le pouvez à me retrouver.
Ok, je prends l'affaire. 20 millions par jour plus l'argent. C'était perdu. Alors on est partis tous les deux au hasard. On a écumé bar, bière, bistrot. On a interviewé le danseur étoile de l'opéra d'Helsinki. Sans succès. Elle s'était quittée sans laisser d'adresse.
Sur le chat. Bon, Lio, on la reconnaît bien quand même.
Non, j'ai reconnu quand même la voix de Jackie.
Ouais, quand même, c'est
un
assez
des
balèze.
Invités bah. Exceptionnels donc de l'Angers Geek Fest. Là, c'est presque Radio Geek. Hein.
Ouais, bah ouais, mais je suis content d'avoir pu te coller sur un truc de variété pop française des années 80, parce que tu nous sors des trucs super pointus d'habitude et tout. Oui. Et là, celle-là, tu la connaissais pas. T'étais où en 1984, Jackie et Lio. Donc Jackie, bah on espère qu'on vous ramènera une interview de lui.
Oui, Sébastien,
t'as l'air assez motivé, toi.
Oui, avec d'autres peut-être animateurs aussi de Radio G, comme Jackie, c'est un touche-à-tout, et que Radio G, on c'est aime vrai. Bien aussi toucher à différents domaines. Ouais. Donc c'est très intéressant.
Pas mal de, une bonne partie de la programmation a été annoncée là sur le site de l'Angers Geek Fest, donc qui aura lieu les 6-7 avril au Parc Expo. La billetterie est ouverte, vous pourrez retrouver Imaginaire comme d'habitude sur leur stand. On vous proposera probablement deux conférences. On vous en parlera un petit peu plus tard. Et on continue dans l'émission donc avec la chronique de Jean-Hugues. Pour 205.
Félicitations, Elgie, c'est un calamar.
Très chers auditeurs, chers collègues, mon amour, bonsoir. Alors, pour commencer, parlons cinéma. J'ai vu Barbie. Ne gâchons pas notre plaisir, j'ai trouvé l'esthétisme léché et j'ai ri de certains passages d'autodérision et c'est tout. L'engouement sur le truc m'échappe un peu. Si, soyons clairs, on peut se féliciter des messages militants du film, mais qui s'adressaient à qui ? Du coup, je me suis tourné vers les éléments féminins de tout âge autour de moi et ils ont un sentiment similaire. Alors du coup, j'ai regardé Oppenheimer, j'ai trouvé que le cheminement qu'a suivi le savant est très, très sympa et j'ai appris des trucs historiques que j'ignorais et c'est tout. Bon, j'ai été très content de voir Einstein, j'aime beaucoup Einstein, presque autant que Tesla, c'est dire. Bref, à croire que je suis un très mauvais ciné-spectateur. Alors du coup, derrière, j'avais offert à ma charmante pour Noël les versions longues du Hobbit, alors on a regardé. Et ben, j'ai été beaucoup moins déçu que lors de la première vision au cinéma. Hein. Ouais, bon, ok, j'avais été très déçu. Et puis j'aime bien les Legolas. Légolas, qui a quand même eu l'élégance d'attendre le Seigneur des Anneaux pour compter le nombre d'orques qu'il tuait. Ensuite, j'ai regardé les deux Hercule Poirot avec Kenneth Branagh. Et en dehors du fait que les moyens ont été mis en place pour les décors de manière assez spectaculaire, j'ai trouvé que les versions avec David Suchet beaucoup plus sympas. Bon, du coup, suite à ça, j'ai regardé des séries. D'abord, offert par notre bien-aimé président, oui, celui d'Imaginaire, si l'autre offrait des trucs, ça se saurait, j'ai regardé Dollhouse, les deux saisons, réalisées par Josh Whedon. Mais si, tu sais bien, le Joss qui nous fait Buffy, Angel et l'excellent Agents of S.H.I.E.L.D. Alors, Dollhouse, c'est un truc étonnant. C'est des hommes et des femmes qui se trouvent dans des situations difficiles, qui passent un contrat avec Dollhouse, qui est une entreprise, et ça veut dire une maison de poupées en british. Et pendant 5 ans, leur, on va dire, esprit est effacé. Et on réimplante à la place des esprits totalement artificiels, répondant à des désirs de clients fortunés, forcément. La surprise générale, bon, les femmes belles servent de faire-valoir romantique qui finissent en plan cul. Mais pas seulement. Nous allons suivre Echo, interprétée par Elisa Dushku, qui a la particularité de se souvenir de ses expériences passées. Alors ça, c'était pas du tout prévu. Ce qui fait que, bien souvent, c'est un peu le souk dans sa tête. Alors Joss Whedon était bien triste car on lui a censuré de nombreuses idées et scènes. Bien fait, t'avais qu'à aller chez HBO. Alors, la série est sympa, sans être la plus grande série du monde, hein, ça se laisse bien voir avec un final en fin de saison 2, qui est la fin, à la hauteur. Ça date de 2009. Alors j'ai vu aussi deux mini-séries inspirées par Harlan Coben, qui est la production, Double Piège et Safe. Alors c'est du pur Harlan Coben, c'est dire que bien malin celui qui est au tir du show est capable de deviner la fin. C'est efficace. Bon, c'est pas super génial, mais c'est efficace. Après une série russe, Better Than Us, plutôt sympa, tournée en 2020 à Moscou. Ça se passe dans un futur proche, les robots sont omniprésents dans les domiciles, les usines, tout ça. Cosmos, la société de Viktor Toropov, est le leader sur le marché. Et il fait l'acquisition d'un robot nouvelle génération chinois, qu'il importe de Chine, capable de sentiments et d'empathie. Alors, Arisa, elle s'appelle. Alors, sauf que les trois là d'Asimov, Arisa, la jolie robot, elle leur pisse à l'arrêt, ce qui lui permet de quitter les locaux de l'entreprise, après avoir tué du monde, et croiser une petite fille à qui elle va attribuer le statut de premier utilisateur. C'est-à-dire que c'est la petite fille qui commande. Bon, c'est assez malin, même si c'est un peu poussif par moment. 16 épisodes de presque une heure, ça regroupe les deux saisons russes hein, en une, avec des rebondissements et surtout des personnages qui échappent à nos standards habituels et qui sont vraiment très sympas. Et puis, enfin, une série lourdement conseillée par un ami éditeur, Poker Face. Alors, Charlie est une femme d'une quarantaine d'années, dotée du don, en fait, de la malédiction de détecter quand une personne ment. Où elle dit « bullshit ». Ayant vécu sur le dos de joueurs de poker dans une petite ville, dans une fuite en avant, elle s'est risquée dans un casino où le patron l'a repéré. Du coup, elle reprend la route à la suite du premier épisode de la saison, poursuivie par les hommes du casino. Chaque épisode suivant la voit arriver dans un milieu social typiquement états-unien. Alors, c'est le genre hameau pour routier, restaurant, barbecue de bœuf, cabaret, etc. À chaque fois, un meurtre a lieu qu'elle résoudra non sans difficulté. Et il faut reconnaître que la série est un hommage direct à Columbo, c'est-à-dire que le début de chaque épisode nous rend témoin du meurtre et des artifices utilisés par l'assassin pour cacher les preuves. Et la suite montre Charlie impliqué indirectement dans les scènes précédemment vues et le démarrage de l'enquête. C'est beaucoup plus malin que ma description peut le laisser penser. Je tenterai les deux premiers épisodes et vous me direz. Et puis, j'ai lu des livres. Alors, frappé d'un sentiment d'une riche nulle s'agit, je me suis penché sur ma bibliothèque, histoire de respirer un grand coup. Alors, j'ai commencé par un recueil de nouvelles de Jean-Bernard Pouy, sorti à la série noire, Les Roubignoles du Destin. On ne le dira jamais assez, mais le texte court maîtrisé avec talent qui frise le génie pour Jean-Bernard Pouy. L'exercice est plus compliqué qu'il n'y paraît. Comment en 20-30 000 signes frapper, amuser, passer un message sans se diluer? Pour en avoir lu des milliers, je peux vous assurer avoir vu des plantages de premier ordre et par des vrais pros. Chez Pouy, il n'en est rien, même si certaines sont des hommages déclarés à l'ébriété, festive ou non. La nouvelle qu'il avait réalisée pour Total Chaos, la première anthologie policière d'Imaginaire, en est un exemple patent, truculente, militante, drôle. Jean-Bernard Pouy a dû écrire des centaines de nouvelles à tous ceux qui lui demandaient gentiment. Alors, les rassembler, ce serait un travail de titan. Alors, Les Roubignoles du Destin, la nouvelle qui ouvre le recueil auquel donne son titre, est l'exemple parfait de ce que j'évoquais précédemment. Concision, militantisme, anti-extrême droite, humour noir et mort si absurde que le rire est proche. se nettoyer la tête avec du Jean-Bernard Pouit va être remboursé par la Sécurité sociale. Et puis, je halais le In Quarto dédié au roman noir de Manchette et me décidai à lire le premier opus, Laisser bronzer les cadavres, écrit avec J.P. Bastide. Le roman a pour point de départ une déconnade entre les deux auteurs qui ont décidé d'écrire un huis clos dans une danse rocambolesque qui frise l'apocalypse. Alors Luce a acheté du temps de sa jeunesse et sa beauté un hameau en ruine écrasé par le soleil d'été où elle reçoit qui veut y venir. Alors l'artiste y passe ses étés mais ne bénéficiant plus de l'éclat passé, la population s'est un petit peu clairsemée, appauvrie. On y boit toujours beaucoup, sans compter un peu de drogue. C'est l'endroit où viennent se réfugier une bande de malfrats chevronnés après le pillage d'un fourgon chargé d'or. Des invités de dernier amont de Luce, un avocat dont elle s'est lassée. Dernier invité, un écrivain alcoolique en panne. Mais comme dans toute bonne pièce de théâtre, les acteurs secondaires arrivent. L'ex-femme de l'écrivain avec son fils qu'elle a enlevé au père, la nounou du petit et deux anges de la route qui suivent sa trace. Les gendarmes vont être magnifiquement accueillis, comme vous l'imaginez. C'est efficace, rapide, étonnant. Et c'est ce roman qui préfigure la nouvelle vague du polar qui se lit d'une traite, et j'oserais le comparer au niveau efficacité avec l'inoubliable Moisson rouge de Dashiell Hammett dans son côté baston à outrance. Enfin, pour terminer, un roman fantastique de Graham Masterton que j'adore habituellement. Il s'agit de Le démon des morts. Comme toujours avec Masterton, on est immédiatement embrigadé dans une histoire qui fait dresser les cheveux sur la tête. John s'est installé avec sa jeune épouse dans un village côtier non loin de Salem. Pas de bol, madame se fait tuer par un gros camion dans un accident de la route. John est en train de faire son deuil quand des voix, des apparitions de sa charmante viennent le hanter. Des hallucinations, se nie notre bon John, jusqu'à ce que le fantôme se livre à un acte masturbatoire sur lui. Et ça ne va pas en s'interrogeant. Puisque John se rend compte que ses voisins, eux aussi, souffrent de hantises perpétrées par leurs proches. Mais pourquoi donc ? Vient le temps de l'enquête où l'on découvre que les sorcières de Salem avaient peut-être bien une mission, qu'un navire bien étrange a coulé quelques siècles plus tôt, avec quelque chose à son bord. Masterton joue avec nos nerfs comme à sa grande habitude, ses persos sont sympas. J'ai trouvé la fin un petit peu bâclée, relisez plutôt Manitou. À très bientôt les amis dans un autre espace-temps, comme dirait Patrice Véry.
And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here?
Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing up the cup into the blue again. After the money's gone, once in a lifetime, water flowing underground.
And you may ask yourself, how do I work this? And you may ask yourself, where is that large automobile? And you may tell yourself, this is not my beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife.
Letting the days go by, let the water hold.
beautiful house. You may ask yourself, where does that highway go to? And you may ask yourself, am I right? Am I wrong? And you may say to yourself, my God, what have I done?
Letting the days go by. Let the water hold me down. Letting the days go by. Water flowing under back into the blue again. Into the silent water. Under the rocks and stones. There is water under back. Letting the days go by. Let the water hold me down. Letting the days go by. Water flowing under back into the blue again. After the money's gone. Once in a lifetime. Water flowing under back.
Same as it ever was.
Talking Heads, c'est plus facile à reconnaître que Jackie.
Oui.
Encore les années 80 avec Once in a Lifetime. C'était un extrait de leur quatrième album Remain in Light en 1980. Jean-Hugues a choisi cette chanson parce qu'il trouvait que ça collait bien avec des histoires de fantômes. Je ne sais pas. Toi, tu auras un choix 80s aussi. Et puis après, deux interviewés de cette émission, Cécile Delrue et Vincent Aurieux de l'ESPL. Eux nous ont choisi un petit truc un petit peu plus contemporain. Mais c'est l'heure de ta chronique, Sébastien, dans l'imaginaire sur le 101.5.
Donc, comme annoncé en début d'émission, je vais vous parler de Le Sanctuaire de Orla. Donc, qui est sorti en 2023, bah, comme le premier, donc, des défis et sortilèges, le cycle des héritiers de Dorgan. Bon, le même titre que le cycle, les héritiers de Dorgan. Donc, le premier, le deuxième, le sanctuaire des Orla. Alors, qui se passe 5 ans après les événements du premier. Donc, on doit, en fin de compte, lutter contre Synapse, un mauvais elfe, qui est passé, en fait, du côté obscur, et qui veut prendre le pouvoir, donc, surtout Dorgan. Et donc, nos héritiers donc sont au nombre de 4 et ont formé donc une compagnie, la compagnie des héritiers, qui s'est séparée pendant les 5 ans. Et là, on a l'occasion donc de repartir à l'action. Et là, on est vraiment impatient d'en découdre avec Synapse, qui a décidé donc d'attaquer pour de bon Dorgan. Donc, il a fourbu ses plans. Il avait essayé déjà dans le premier de conquérir Terra, une colonie dans laquelle des Dorganais avaient élu domicile, sauf que les héritiers ont contrecarré donc les premiers plans de Synapse. Alors l'originalité donc du deuxième tome, que je trouve vraiment très très bon, c'est qu'on peut, et là c'est un peu ma chronique, un peu la tactique, un peu des choix, on a d'entrée dans le premier paragraphe romain donc le choix du héros. C'est-à-dire que là on va pas en fin de compte démarrer avec les 4 héros ensemble, mais avec un des héros au choix. Et qui va avoir droit à une petite aventure d'une 15aine de paragraphes avant de rejoindre la capitale du monde de Dorgan pour retrouver ses camarades. Alors moi, j'ai trouvé ça génial et je me suis dit, bah, pourquoi pas jouer Galidou, le petit gnome, qui semble, en fait, pas très costaud pour le combat, effectivement, mais qui a un haut score de magie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, là, je vais parler un peu, du ludisme. C'est qu'en fait, en passant d'un lieu à un autre, on gagne un point de légende, soit un point d'expérience, ou en choisissant un choix du livre de son héros, donc un livre en plus du livre principal.
Qu'on aurait fait avant.
Non, c'est en fait dans t'as l'histoire principale, d'accord. Et t'as un livre par héros.
Dans le livre. D'accord.
Et donc, en faisant ces choix donc de Galidou, et en passant d'un lieu à un autre, parce qu'il part en fait d'un point de la carte qui est différent de celui des 3 autres. Alors, c'est un retour aux sources, parce que le premier cycle, figure-toi, et on avait aussi 4 personnages qui partaient de 4 points de la carte différents. Donc c'est un petit clin d'œil donc de Gildas à son premier cycle. Et là, avec Galidou, donc on a une quinzaine de paragraphes, l'occasion donc de débloquer des points de légende. Le maximum, c'est 5. Et c'est très intéressant parce qu'on peut donc l'augmenter de beaucoup. J'ai fini l'aventure avec 24 points de légende pour Galidou, que 19 avec les trois autres. Parce qu'effectivement, comme j'ai pris le parti de l'utiliser au tout début, que lui tout seul, oui. Bah c'est lui seul qui gagne de l'expérience. Et on peut comme ça gagner de la légende et pouvoir débloquer des pouvoirs. Et j'ai vu que dans le tout dernier tome, on peut donc faire venir un autre gnome, notre double, qui s'il meurt en combat, eh bien c'est lui qui meurt, en fait pas nous. Et on a aussi d'autres pouvoirs marrants comme disparaître et surgir derrière le dos de son adversaire, le frapper.
Mais ça peut aider ça.
Donc en fait c'est un personnage que je trouvais plutôt faible au début, mais qui se révèle plein de malice et d'ingéniosité et avec des pouvoirs vraiment surprenants. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire « Ah, j'aurais bien envie quand même de voir vraiment les gros, gros pouvoirs. » Mais arriver quand même à avoir 50 points de légende, c'est quand même chaud.
Et donc, c'est le personnage parmi ceux qui sont au choix, voilà, qui maîtrise le plus la magie.
C'est lui qui maîtrise le mieux la magie. Il y a aussi Laurin le Barde, qui est un jeteur de sorts, Yamel le démon. Et on a aussi Valkyr le paladin, mais il a un score de magie vraiment très nul.
Il a une
lame magique qui possède aussi des pouvoirs très intéressants. Donc là, on a vraiment le choix du héros et l'occasion donc de l'augmenter en expérience et d'en faire un peu le chef de notre compagnie. Et on a aussi la tactique du choix d'un lieu. À un moment donné, on peut rallier directement la capitale de Dorgan en se disant c'est urgent, là il y a Synapse, il attaque et tout. Mais on a l'occasion d'aller vers une chaumière qui est un peu une sorte de temple, entre guillemets, voué un peu au culte du dragon protecteur, donc une chaumière bénéfique. Et il se pourrait, là je veux pas spoiler, que vous trouviez un objet magique, un peu comme un objet spécial qu'on a dans les loups solitaires, mais avec des vertus très très fortes et qui peuvent aider vraiment notre personnage. Et c'est là où on voit que, tu vois, en vraiment faisant confiance à un de ces personnages, moi le gnome, eh bien on peut vraiment lui apporter des choses qui peuvent t'amener à vouloir le rejouer par la suite. Donc à ne pas sous-estimer le petit gnome. Et ce que j'aime aussi donc dans l'aventure du sanctuaire de Orla que j'avais testé dans le premier, c'est qu'on a des combats qui sont pas loin du jeu de rôle, de ce que tu peux connaître en jeu de rôle, toi Romain. Alors je prends pour exemple un combat contre une sorte d'homme-oiseau, qui se serait croisé avec un ptérodactyle, un cric-bec. Et on est donc sur le dos d'un aigle géant, conduit par un elfe. Et à ce moment-là, en fait, c'est à toi de te dire, donc tu as le choix là du personnage que tu veux jouer, mais attention, notre personnage est derrière l'elfe. Donc est-ce qu'il est plus opportun de jouer un jeteur de sorts que de jouer Valkyr, qui lui, avec son épée, va pas frapper le dos de l'elfe. Et à partir de là, tu as une tactique. Et aussi, l'elfe, il a une lance. Donc, tu peux peut-être faire l'échange de ta lance, l'échange de sa lance avec ton épée. Comme ça, tu peux frapper de ta lance derrière le moiseau. Donc, on a des combats quand même qui sont assez tactiques, où il faut réfléchir à la manière de les aborder. Comme à un moment donné, on a aussi le choix d'ouvrir ou de fermer la marche. C'est-à-dire que si t'es téméraire, tu dis, tiens, je mets Valkyr. Et à ce moment-là, je vais la botte imprévisible, qui peut me permettre de faire 4 dés de blessures. Et j'ai rencontré une sorte de zombie, et là j'en ai fait de la chair à charpie. Là c'était du découpage en règle. Donc c'est vraiment intéressant de voir par rapport au combat ou par rapport au danger qu'on pourrait trouver à ce moment-là, lorsque j'ai décidé de marcher de front, on était dans des cavernes obscures et tout, pas loin du sanctuaire des Orla, où se terre Synapse. Et là, je me suis dit, c'est mieux de mettre en avant le paladin qui va pouvoir fouetter avec sa lame, et au cas où j'ai un jeteur de sorts qui pourrait m'aider derrière. Mais quand même, dans toute cette tactique de choix, entre le choix du héros, choisir d'aller dans tel lieu, parce qu'on peut trouver un objet qui pourrait nous aider vraiment par la suite, les choix aussi en combat, de positionner son personnage lorsqu'on est tous les quatre ensemble, on peut se prendre d'affection pour un de nos héros, comme moi pour Galidou. Alors pourquoi ? C'est que, en plus d'avoir à choisir un personnage au tout début pendant une quinzaine de paragraphes, avant d'avoir à jouer les quatre, eh bien, on fait aussi des cauchemars. synapse en fait nous fait faire des cauchemars. Et à un moment donné, l'auteur il est malin parce que je suis Galidou et je fais un cauchemar. Donc je vais le retrouver.
Mais tu le sais pas ça, j'imagine. Non, ça.
Bah on devine assez vite en fait que en fait c'est des attaques mentales que nous lance Synapse. Et après je fais un petit parallèle avec d'autres séries. Et là en fait on apprend que notre père en fait il est torturé par des horreurs. Et on se précipite dans la chambre de torture pour le sauver, et là, le cauchemar s'arrête. Et quelques temps après, on te demande, avez-vous envie de, dans le choix du livre du héros, tu peux reprendre Galidou pour connaître la fin de son cauchemar, ou choisir un autre personnage. Mais moi, j'ai été tenté de connaître un peu la suite. Mmh. Donc en fait, on va se prendre quand même d'affection pour un de nos personnages. Et j'aime bien aussi le fait que notre ami Gildas Sago, bon, il fait aussi des clins d'œil dans Métamorphose à des personnages comme Yémeric dans le deuxième. Il en fait référence dans une autre de ses séries Métamorphose. Et il fait aussi, pour moi, des clins d'œil à Astrodor. Synapse, qui fait des attaques mentales, ça rappelle le roi sorcier Charachak, qui attaque Astrodor dans son sommeil. Lorsque nos personnages vont aller dans un monde parallèle, à la fin du deuxième, donc, et ça sera donc l'objet donc du troisième tome, La huitième porte, qui sort le 1er mars chez Scriptarium. Ça fait référence à Loup solitaire qui pénètre dans le monde du Dasyarn, dans les prisonniers du temps. Donc, Gildas Sago fait aussi des clins d'œil à des campagnes de livres-jeux, Loup solitaire, Astrodor, des vraiment très bonnes. Dans ces défis et sortilèges qui n'ont pas à rougir donc
de la comparaison.
Et Scriptarium fait un travail de qualité, on a aussi de nouvelles illustrations, j'ai passé un excellent moment. Le seul reproche que j'ai, c'est que ça finit trop vite et qu'on n'a qu'une seule envie, c'est d'ouvrir la suite et qui va sortir donc le 1er mars, sachant que le quatrième tome sortira aussi en 2024, donc c'est l'occasion de vous faire plaisir et de redécouvrir cet auteur français et qui a une très belle plume. Avec des ressorts ludiques épatants.
Super. Et ben, on continue en musique avec ton choix, c'est Arcane.
Voilà, un groupe tombé un peu dans l'oubli, comme Gildas Sago, et que j'avais envie de faire renaître à la radio ce soir.
Ok, et puis dans quelques minutes, l'interview des dirigeants de l'ESPL à propos de leur BTS édition.
For me.
avoir là par cette fin de...
Ah, c'est une balade, on se laisse happer.
Par Lolita, le deuxième single d'ARK dans 87. Allez, on continue dans l'émission avec cette fois Pierre-Marie qui avait interviewé la directrice et le directeur pédagogique de l'ESPL à propos de leur BTS édition.
Bonjour à tous, l'équipe Imaginaire a décidé de changer un petit peu de mare dans laquelle nous avons l'habitude de nager et de laisser tomber les œuvres romanesques et cinématographiques. Aujourd'hui, nous sommes en présence de deux personnes assez intéressantes pour parler de leur projet, on va dire ça comme ça. Cécile Delru, directrice de l'ESPL, et Vincent Rieux, directeur pédagogique. L'ESPL, qu'est-ce que c'est? Établissement scolaire supérieur du campus de Belleveille, accessible en tram. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus?
Bonjour. Donc oui, je suis Cécile Delru. Donc l'ESPL d'École supérieure des Pays de la Loire, donc une école qui est née il y a 37 ans, qui est aujourd'hui spécialisée dans les diplômes d'État, donc les BTS, avec 11 spécialités. Donc c'est une école qui a grandi au fil des années. On a rejoint le groupe Eduservice en 2010. Alors Eduservice, c'est quand même le premier groupe de l'alternance en France. Et donc ça nous a permis un développement très important. Et aujourd'hui, on arrive à 1200 étudiants à peu près, 11 BTS et donc 3 nouvelles filières qui ouvrent à la rentrée 2024, dont le BTS édition. Donc on est sur du diplôme d'État avec des étudiants donc en initial, donc statut scolaire ou en alternance. Avec l'alternance qui se développe énormément. Et là, par exemple, en termes de chiffres, sur une deuxième année de BTS, on est à 80% d'alternance, donc contrat d'apprentissage.
Apprentissage seulement ou professionnalisation?
Il y a également des contrats de professionnalisation, donc pour des profils au-dessus de 29 ans, notamment des reprises d'études.
Ok. Donc toi, tu chapeautes tout ça. Mais Vincent, qu'est-ce que tu fais? Directeur pédagogique, qu'est-ce que c'est?
Alors en fait, moi, j'encadre tous les responsables pédagogiques, donc les responsables de section de tous nos BTS tertiaires. Et c'est moi aussi qui gère le recrutement des formateurs afin que quand un étudiant puisse venir étudier chez nous son BTS, il puisse avoir des formateurs compétents qui puissent être vraiment en lien avec chaque métier. Et que le métier, 80% de nos formateurs sont des personnes qui sont professionnelles de la formation. Hein, qui, voilà, donc on a des agents immobiliers pour le BTS profession immobilière. Et pour le projet qui nous amène à parler aujourd'hui, je recherche donc des personnes qui sont dans le monde de l'édition.
Alors, c'est bien que tu abordes le sujet puisque c'est le cœur de notre rencontre. Donc, discuter de ce nouveau BTS édition, c'est une nouvelle filière qui a grand-chose à voir avec d'autres filières que vous avez déjà ou c'est un projet qui sort de vos envies personnelles?
C'est plutôt ça. C'est un projet qui sort de nos envies, c'est tout à fait ça. C'est un BTS qui est quand même assez peu connu et surtout peu répandu. Et en fait, c'est aussi une manière de répondre aux besoins du marché parce que visiblement, beaucoup d'éditeurs cherchent de la main-d'œuvre, enfin cherchent des nouveaux collaborateurs et ils ont des difficultés de recrutement. Et c'est aussi pour ça qu'on a ouvert la filière, en fait. Donc il y a quand même un besoin sur le marché en région puisqu'il y a quand même des petites boîtes d'édition. Et puis après, évidemment, également sur Paris.
Donc toi, tu as eu l'envie de créer cette filière et puis Vincent a eu la charge de l'application technique?
Exactement. Donc moi, je suis en charge de réfléchir sur la maquette pédagogique, comment j'organise en fonction des matières qui sont à proposer dans le BTS. Donc on a en fait 6 blocs, 3 blocs de matières générales comme tous les BTS, c'est-à-dire de la culture générale et expression, de l'anglais et de la culture économique, juridique et managériale du monde de l'édition. Donc ça fait 3 blocs dits de matière générale. Et après, des blocs de matière professionnelle. Et là, on est vraiment dans le cœur du métier. Donc c'est préparé, enfin, tout ce qui est préparé pour mise en production. Donc c'est des métiers bien spécifiques de maquettiste, de lecteur, de correcteur. C'est aussi un autre bloc sur la proposition de solutions éditoriales. Donc là, on est vraiment le côté de la personne au sein de la maison d'édition qui va pouvoir présenter un projet à sa direction ou aussi présenter ces projets-là aux partenaires comme les imprimeurs, comme les distributeurs. Et après, donc il y a un dernier bloc évidemment qui est un bloc aussi spécifique à beaucoup de BTS qui est comment je présente toutes mes réalisations que j'ai fait pendant 2 ans, donc mon projet professionnel et qui peut être fait à partir de fiches techniques et de fiches de situation professionnelle.
D'accord. Donc très technique. Mais on parle ici d'un BTS, donc 2 ans post-bac. Oui. Comment votre sélection, vous la faites?
Alors on l'a fait surtout par rapport à l'envie. Nous, l'intérêt, c'est d'avoir des candidats qui ont une vision de l'entreprise, de ce que c'est qu'une maison d'édition et qui ont envie de travailler pour pouvoir développer la culture. Alors ça reste un bien grand mot, mais c'est vrai que c'est aussi important d'avoir des gens qui sont passionnés par ce qu'ils veulent faire. Alors on n'est pas forcément sur des gens qui sont passionnés par l'écriture, parce qu'on ne va pas rechercher des auteurs, on va rechercher des gens qui ont envie de diffuser et donc d'éditer un ouvrage, que ce soit une bande dessinée, un livre ou un jeu de rôle par exemple. On a envie d'avoir des gens passionnés. Et ça fait lien aussi avec d'autres BTS qu'on a, comme le BTS communication. Ce sont des compétences aussi transversales et qui sont qui peuvent être similaires. Mais il faut avoir cette appétence pour l'écriture, quand même, d'une certaine manière.
Cécile, tu disais que dans tes étudiants, tu avais des étudiants qui étaient à la fois en alternance et des étudiants qui étaient à la fois en initiale. Là, on parle d'un BTS classe commune, deux classes, initiale, alternance. Comment est-ce que ça va se dérouler pour quelqu'un qui vient? Qu'est-ce qu'il va y trouver?
Alors, après, tout dépend un peu de l'effectif de la classe, évidemment. Si on a un effectif suffisant, deux classes, ça serait bien. Ça permet de différencier les deux profils et notamment de personnaliser les rythmes de formation. Après, si on est sur un effectif, je sais pas, un peu plus modeste, on peut tout à fait imaginer une classe mixte, mais par contre, il serait, divisé sur certaines matières, parce que ça permettrait d'avoir des cours, notamment pendant que les initiaux partent en stage. Voilà, le rythme sera forcément un peu différent. Donc, on est un peu, pour l'instant, en réflexion. J'avouerais que c'est quelque chose qui peut évoluer. Après, on peut très bien imaginer aussi la classe mixte en proposant aux initiaux des stages alternés aussi. Ça permettrait de garder exactement le même rythme et de rester classe complète. C'est à voir. On verra un peu comment...
Après, l'intérêt, c'est qu'on a, comme on a déjà 11 BTS différents sur le tertiaire, on a l'habitude de gérer ces fameuses classes mixtes. Et c'est vrai que c'est toujours une richesse pour quelqu'un qui est en initial, donc a un profil entre guillemets dit plus scolaire, de pouvoir échanger avec les autres étudiants qui, eux, vont avoir un profil plus dit professionnel, qui vraiment sont dans le cœur du métier parce qu'ils sont en entreprise chaque semaine. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de gérer cette mixité et c'est toujours très enrichissant, à la fois pour les alternants et à la fois pour les initiaux.
Quelqu'un qui vient et qui a décidé d'être en alternance, c'est-à-dire qu'il va partager son temps entre la scolarité ici et une scolarité en entreprise. Est-ce qu'il faut qu'il vienne directement avec une entreprise? Est-ce que vous avez un panier de ressources entrepreneuriales?
Alors non, il n'est pas obligé bien sûr de venir avec son entreprise. En fait, déjà, il va être reçu en entretien pour valider son projet professionnel et puis son inscription, etc. Et puis ensuite, il va être mis, entre les mains de la conseillère de formation, en l'occurrence Cindy Vérité, qui va l'accompagner dans sa recherche. Donc il y a plusieurs phases. Il ne faut pas oublier qu'on est sur du post-bac, donc on est des fois potentiellement sur des jeunes qui peuvent avoir 17 ou à peine 18 ans, donc ce n'est pas forcément évident pour eux. Donc déjà, toute la technicité d'une recherche d'emploi, comment je construis un entretien, comment je personnalise mes recherches, comment je monte mon curriculum vitae, etc. Donc il y a toute cette partie-là sous forme de petit atelier. Et puis ensuite, l'école aussi organise des job dating. Donc là, on va en avoir plusieurs consacrés à l'ensemble de nos BTS. Et là, notre job à nous, par contre, c'est de contacter des maisons d'édition pour leur proposer en fait de venir sur ce job dating et de publier des offres et de faire des entretiens dans ces périodes-là. Mais après, je veux dire, même si la rentrée approchant, le jeune veut faire de l'alternance, il n'a pas encore trouvé, il a quand même toute une période derrière d'accompagnement qui continue, pour pouvoir intégrer l'alternance à n'importe quel moment de sa scolarité.
Question un peu épineuse, surtout en France, on n'aime pas en parler. Quel coût pour les étudiants?
Alors évidemment, s'il est en alternance, le coût pour lui sera nul, puisque c'est vraiment financé par l'entreprise et puis les organismes financeurs, les OPCO. S'il est en initial, par contre, ça sera à l'année, c'est 4 900 euros.
Okay.
Donc avec, bien sûr, un paiement soit comptant, soit échelonné jusqu'à 8 mensualités.
Pas de souci. Sur ta plaquette, tu indiques aussi la possibilité de faire en formation continue. Qu'est-ce que c'est qu'une formation continue?
On peut avoir en fait des salariés d'entreprise qui décident de reprendre leurs études. Et en fait, c'est l'entreprise qui finance la formation et permet à son salarié, lui donne des disponibilités pour suivre une formation.
Donc là, en fait, dans la classe avec des étudiants post-bac 17-18 ans, on peut très bien avoir des salariés qui ont envie d'acquérir de nouvelles compétences et d'évoluer au sein de leur propre carrière, de pouvoir s'inscrire et de suivre tous ces cours de la même manière.
Exactement.
Le diplôme sera le même,
hein? Exactement.
Ok. Très intéressant. On parle un petit peu plus technique de cette... Donc toi, tu l'as évoqué avec les trois grands blocs de matière. Pour ce qui est des intervenants, tu vas les chercher dans des milieux d'entreprise.
Exactement.
Oui.
Exactement.
Demi-classe, classe entière, cours magistraux, TP?
Alors, on sera de toute façon sur des effectifs, pas très importants en classe. C'est-à-dire qu'on... au maximum, il y aura 20 étudiants par classe. Donc, c'est tout à fait envisageable de ne faire que des TP à 20 étudiants. On a l'habitude de travailler, ça fonctionne très bien. Ça permet d'avoir de la dynamique dans la classe, de faire des travaux de groupe. Donc, au niveau du nombre d'étudiants, il n'y a pas de difficulté. Après, c'est surtout par rapport au côté recherche des intervenants, où là, moi, mon travail, c'est vraiment d'aller rencontrer les éditeurs, rencontrer des gens qui sont dans le métier de l'édition, comme des maquettistes, des lecteurs correcteurs, des personnes qui vont, des agents. Ça peut être aussi très intéressant de rentrer en contact avec ces gens-là. Et on va travailler avec des modules qui sont complets sur les blogs, forcément, de matières dites professionnelles que le BTS a, et on va aussi travailler sous forme de conférences avec des personnes qui vont venir expliquer leur métier, une partie de leur métier, mais des gens qui ne vont pas forcément venir chaque semaine donner un cours, mais sur une période ponctuelle, on va pouvoir avoir une demi-journée sur l'approche avec les imprimeurs, l'approche avec sur les personnes qui vont éditer des jeux de rôle, des jeux de plateau. Ben voilà, ils vont avoir une présentation de cette typologie du métier d'édition, par exemple.
Donc là, sur l'année, il va y avoir les cours, il va y avoir donc ces présentations qui sont hors temps scolaire, intégrées, mais qui ne sont pas considérées par la scolarité. L'évaluation, comment se passe la réception de ce diplôme-là?
Alors, sur l'évaluation, de toute façon, comme on est sur un diplôme d'État, l'évaluation se fait au bout des 2 ans, avec l'examen dit officiel, avec des matières écrites, comme la culture générale et l'expression, qui est un examen de 3 heures, comme l'anglais, où il y a une partie écrite, une partie orale, comme la culture générale, culture économique, juridique et managériale du métier d'édition. Donc ça, ce sont des matières dites générales et écrites. Et après, il y a des blocs professionnels avec aussi des écrits ou des oraux, avec un oral de présentation du projet professionnel du jeune. Alors ça, c'est vraiment à la fin. Mais on est là aussi pour habituer et entraîner le candidat à passer ses examens. Et donc, tout au long de chaque année, on a 2 examens blancs par an. Donc, en première année, il y a 2 examens blancs. Et en deuxième année aussi, ce qui permet d'habituer les étudiants à écrire. Parce que même si on est sur un métier d'édition, les épreuves se font sur papier. Donc, il faut continuer à écrire avec son encre et son stylo. Et ça marche très bien. Donc, on les habitue aussi à faire une étude de cas de 3 heures ou de 4 heures, c'est pas toujours facile.
Et là, dans ce que tu me dis, ça concerne uniquement l'initiale ou les alternances, c'est la même chose?
Les deux, oui. Complètement.
Est-ce qu'il y a une évaluation de l'alternance en tant que telle? Est-ce qu'il y a un enjeu sur la note de l'alternance?
Alors, c'est pas un enjeu, comment dire? Oui, il y a un enjeu, forcément, qu'ils sont notés parce qu'ils sont suivis pendant leur cursus d'alternance par la conseillère de formation qui fera des points avec le tuteur ou la tutrice pour voir en fait la progression au niveau de l'assimilation des compétences. Donc en fait, ça c'est important, ça permet nous, à chaque conseil de classe par exemple, de faire un point sur comment ça se passe en entreprise, comment ça se passe à l'école. Donc la note que pourrait donner un tuteur ou une tutrice n'est pas intégrée dans les épreuves finales, mais ça permet en fait juste de surveiller nous la montée en compétences, en fait. C'est plutôt ça qu'il faut dire.
Et cet accompagnement qu'on a avec le tuteur, donc une vraie relation tripartite entre l'étudiant, nous et l'entreprise, elle est importante parce que c'est aussi quelque chose qui est valorisé sur le CV du candidat à terme. Cette évaluation rentre d'une certaine manière dans le bulletin scolaire, parce qu'il y a une ligne sur le bulletin de suivi d'entreprise et d'intégration d'entreprise. Et ça c'est important aussi dans ce livret scolaire pour pouvoir avoir une poursuite d'études pour les personnes qui veulent poursuivre leurs études après un BTS édition. Alors le BTS édition, c'est un BTS technique, donc évidemment, on est capable de travailler directement en entreprise, en CDI ou en CDD juste après, mais quelqu'un qui est titulaire du BTS édition peut continuer ses études vers une licence en édition ou des bachelors en communication, des bachelors en graphisme. Il y a vraiment des possibilités
aussi.
Événementielles, évidemment. Il y a d'autres possibilités de poursuite d'études.
Là, on parle beaucoup de rencontres avec les sociétés, les entreprises. Est-ce que ça veut dire que les alternants sont obligés d'avoir leur entreprise dans le bassin angevin? Ah non, pas forcément.
Non. Pas forcément. Non, non, on a dans, sur d'autres BTS avec qui on travaille évidemment, on a cette expertise-là où il y a des gens qui sont qui peuvent être sur le bassin angevin, mais qui peuvent être sur la région Pays de la Loire, voire même plus loin. On peut avoir des alternances même sur Paris sans difficulté. Alors après, c'est une question d'organisation avec le jeune pour pouvoir gérer les déplacements, évidemment, et avec l'entreprise qu'elle accepte qu'il y ait ces déplacements-là. Car on va dire que 95% de nos étudiants ça reste dans le domaine de, enfin dans la région Pays de la Loire. Ça va être La Roche-sur-Yon, Nantes, Laval, Le Mans, au plus loin on va dire, mais on reste quand même proche. Après ça reste facile à faire.
Là on parlait de la note donc de l'alternance, de l'implication professionnelle que pourrait avoir un alternant, mais un élève qui arrive en initial, qui vient, ou quelqu'un qui est en formation continue, est-ce qu'il n'est pas un peu désavantagé de ne pas avoir une note professionnelle? Est-ce que vous avez des notes d'implication de dossier professionnel?
De toute façon, il fait des périodes de stage. Hein. Donc, en termes de durée de stage, d'ailleurs, Vincent...
Il a plus de 8 semaines de stage.
8 semaines de stage. Mmh. Donc là, de la même manière, le tuteur de stage ou la tutrice de stage va être interrogé également sur la montée en compétences, sur la pratique en entreprise, etc. Et puis, dans tous les cas, que ce soit un alternant ou un initial, il a le fameux projet professionnel qu'il va présenter à la fin devant un jury... généralement en juin de l'année 2, on va dire, et bien dans les deux cas, c'est là où on va évaluer tout ce qui s'est passé en entreprise, quel que soit le statut de départ, en fait.
Okay. Voilà,
c'est toutes les compétences. Et, voilà. Donc c'est de la même manière, il n'y a pas de...
De toute façon, on est sur un BTS. Le BTS, il ne se fait pas chez nous. Il sera évalué en forme dite ponctuelle. Oui, donc l'étudiant va aller rencontrer un jury d'examen. Et ce jury d'examen, c'est complètement anonymé d'une certaine manière. Okay. Donc le jury ne sait pas si la personne, elle est d'origine initiale, alternance ou continue. Alors, l'idée, c'est ça. C'est qu'il est vraiment évalué par rapport aux compétences qu'il a développées pendant ces 2 ans.
Donc, que je fasse mon BTS chez vous à Angers ou que je le fasse à Lille, je suis noté de la même manière, pas de différence de niveau.
L'évaluation reste
la même chose.
Voilà. Okay. Tout à fait. Et après, je suis un excellent élève et j'ai réussi mon BTS. Qu'est-ce que je deviens ?
Eh bien, déjà, on le félicite.
C'est gentil.
Et puis ensuite, c'est à lui de choisir vers quoi il veut se spécialiser. Est-ce qu'il reste vraiment dans l'édition pure et dure, si j'ose dire, ou s'il va aller sur des métiers un peu peut-être plus créatifs. Hein. On parlait tout à l'heure, même pendant la table ronde, hein, de design graphique, création numérique. Il peut y avoir pas mal de choses comme ça. Ça dépend, en fait. Et puis après, est-ce que lui voudra continuer à travailler dans des maisons d'édition en tant qu'employé ou salarié, enfin bref, ou est-ce que lui-même a envie de créer sa propre société, ce qui ne s'improvise pas, hein, comme on l'a dit aussi tout à l'heure. Donc voilà, ça dépend. Il y a quand même un vrai panel, un panel assez large, on va dire, de poursuites d'études possibles pour moi.
Est-ce que vous proposez une poursuite d'études? Est-ce que vous avez une ligne derrière ce BTS?
Bah déjà, nous, on a sur notre campus, on a une école qui s'appelle Studio M, déjà, qui est dans l'audiovisuel. Donc là, vraiment, il pourrait y avoir des poursuites d'études. Si on veut aller vers l'événementiel, on a également. Si on veut aller plus sur la communication, on a également. Par contre, si c'est une licence édition, là, on va retourner vers l'université.
Ok. Donc, Belbey, qui est juste à côté.
Tout à fait, exactement.
Et puis, son master. Là, aujourd'hui, c'est une nouvelle année. C'est même pas une nouvelle année, puisque c'est une prévision de nouvelle année. La rentrée se fera en septembre.
C'est ça.
Journée porte ouverte aujourd'hui. On a organisé une table ronde. On a discuté avec des auteurs qui ont eu un pied dans l'édition ou assimilé. Mais ce n'est pas fini, ces journées porte ouverte.
C'est ça.
Si jamais je veux des informations plus précises, parce que j'ai encore des interrogations, et là, pour le coup, j'ai plus d'idées pour mes questions. Mais quand est-ce que je peux venir vous voir pour vous poser les questions?
Alors, la prochaine porte ouverte est donc le 16 mars, donc sur le campus, sur Belbey.
Est-ce que tu peux me rappeler l'adresse?
Alors, 19 rue André Lenôtre, exactement à Angers. Après, si on est pressé de venir nous rencontrer bien avant, avec plaisir, bien évidemment. Alors, il suffit de se rendre sur le site, hein, espl.fr, et puis là, on peut cliquer sur le BTS édition et demander une documentation. Et là, notre conseillère recontactera le candidat pour positionner avec lui un rendez-vous et lui expliquer de façon plus personnalisée, en fait, tout ce qu'il attend dans ce beau BTS qui offrira à la rentrée 2024.
On en a parlé plus ou moins pendant toute cette interview. Le BTS édition, le milieu de l'édition, est un métier qui est quand même très technique et qui peut s'éloigner un peu de la théorie. Tu nous as parlé, Vincent, d'interventions de professionnels qui allaient expliquer certains aspects du métier qu'on ne verrait pas en temps scolaire, mais est-ce qu'il y a des ateliers, est-ce qu'il y a des événements à destination des étudiants pour une sorte de mise en pratique?
C'est ça. Alors, on va justement faire un événement. J'ai pas encore complètement arrêté la date, mais on va bientôt communiquer sur les réseaux. On voudrait faire un événement justement en créant un atelier d'écriture. Voilà. Donc, une manière un peu de se plonger un peu plus. Alors là, c'est plus l'écriture, mais c'est quand même un des métiers qui concerne l'édition. Donc, voilà.
Yeah.
Et aussi, au sein de l'établissement, on a aussi d'autres événements qui sont pour tous les étudiants, comme le concours d'éloquence, qui est toujours intéressant. Ce sont des compétences extrêmement intéressantes à développer pour quelqu'un qui a embêté cette édition. Donc, on a le concours d'éloquence et aussi, on a un business game, donc un jeu d'entreprise pour créer son entreprise qui est ouvert à toute section des BTS et qui est aussi intéressant à partager. Dans les autres modules qu'on propose aussi, on propose des modules de professionnalisation, des modules aussi de développement personnel, sur travailler son CV, savoir se présenter, c'est aussi sur les droits et les devoirs du citoyen. Enfin, on a tout un panel d'autres modules de formation qui sont professionnalisants et qui sont intéressants pour l'étudiant à développer en termes de compétences.
Tous les modules dont tu parles se passent pendant la vie scolaire de l'ESPL.
Exactement.
Donc en dehors de juillet et août.
Oui.
Mais tout ça n'intéresse que les étudiants.
Tout à fait, c'est ça.
Oui. Qu'aux étudiants. L'atelier d'écriture aussi ?
Non, justement. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire, je dirais, je crois que c'est sur avril, mais je préfère réserver la date pour l'instant. Ça sera la petite surprise. Là, non, au contraire, c'est ouvert à tous nos candidats, tous les gens qui s'intéressent, en fait, au métier de l'édition, de l'écriture. Et voilà, ça sera l'occasion de rencontrer aussi des professionnels, parce qu'il y aura des jurys derrière ça, en fait, pour faire une sélection. Mmh. Et pourquoi pas qu'ils pourraient emmener jusqu'à l'édition de la nouvelle derrière. Mmh. Donc, mais voilà, on réserve un peu la communication, on va garder un peu de suspense et on vous tiendra au courant.
Sur les réseaux sociaux, voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce que je peux trouver sur Internet, en dehors de votre site Internet, toutes les informations événementielles de l'ESPL ?
Alors bien sûr, on est sur les réseaux comme tout le monde, on a les comptes Facebook, TikTok, Instagram, etc.
LinkedIn
aussi, bien sûr, bien évidemment. Mais c'est vrai que quand on s'adresse à un public vraiment étudiant, c'est moins LinkedIn, mais par contre, on touche les parents hein, qui pourraient se demander que faire de leurs enfants ou vers quoi les orienter plutôt. Et donc là, forcément, on est plutôt sur LinkedIn dans ces cas-là.
Tout à fait. Bah, LinkedIn, ça reste aussi pour moi un vrai réseau pour contacter les professionnels. Ce qui me permet d'avoir un beau panel de professionnels qui viennent nous rencontrer.
Très bien. Je vous remercie beaucoup, donc Vincent et Cécile, dans l'autre sens Cécile et Vincent, c'est peut-être mieux, pour votre disponibilité, pour vos explications et surtout rendez-vous le 16 mars sur le campus de l'ESPL pour une journée porte ouverte et toutes les informations du BTS édition.
Exactement, merci,
merci
à vous. Avec plaisir en tout cas.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
On se retrouve dans deux semaines. Restez à l'écoute de Radio G. Sébastien, tu voulais nous partager une petite soirée d'une, l'avant-première mardi prochain.
Le 27 février, donc d'une aux 400 coups à partir de 17h30. L'occasion de voir à 10 euros les deux films, dont le d'une 2 en avant-première et avant le d'une premier.
Ça marche. Et nous, on se retrouve dans deux semaines sur le 101.5.
Bye bye.
Bonne soirée.